Chers amis des cellules, bonjour. Je vous propose de réfléchir aujourd'hui à partir de l'évangile de dimanche prochain, où Jésus est mis à l'épreuve à partir de la question de l'impôt à verser à César ou bien à refuser de verser à César. Nous serons tout particulièrement attentifs à partir de la remarque sur l'effigie, à qui est l'effigie de cette pièce, à tirer des indications sur comment vivre les périodes d'épreuve. Mais commençons par la lecture de l'Évangile. Le chapitre 22, les versets 15 à 21. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai, et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur ?» Connaissant leur perversité, Jésus dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ?» Ils répondirent, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Fin de la lecture. Expliquons en quoi consistait le piège tendu par les pharisiens. La terre d'Israël à cette époque est contrôlée par les Romains qui prélèvent l'impôt. Une partie de la population s'accommode assez bien de cette présence romaine, ce sont notamment les Hérodiens, les partisans d'Hérode et de sa famille. Ils doivent en effet leur pouvoir et leur autorité à la présence romaine. Mais il y a toute une partie du peuple qui a une aspiration nationale et qui souhaiterait se dégager de l'influence romaine et du coup qui refuse de verser l'impôt ou qui le fait de mauvaise grâce. Si les pharisiens, à l'inverse du groupe des zélotes qui sont pour une résistance armée et violente, ne souhaitent pas recourir à la force, ils ont une aspiration nationale et paient l'impôt de mauvaise grâce. En conséquence, à la question « faut-il, oui ou non, payer l'impôt ?», en ayant réuni des partisans d'Hérode favorables aux Romains et des partisans des pharisiens qui regardent d'un mauvais œil la présence romaine, la réponse de Jésus ne peut que trouver des adversaires. S'il dit « il faut payer l'impôt », les pharisiens diront « vous voyez bien, c'est un collaborateur du pouvoir romain païen ». Si Jésus dit « il ne faut pas payer l'impôt à Rome », les Hérodiens diront « voilà un dangereux agitateur qu'il faut arrêter au plus vite ». Ainsi, a priori, répondre à leurs questions, c'est se perdre pour Jésus. Le piège est installé, commencer à jouer c'est déjà avoir perdu, commencer à répondre devrait provoquer sa perte. Mais Jésus va désamorcer leur piège. Il demande à voir une pièce avec laquelle on paye l'impôt, et sur cette pièce, il attire l'attention sur l'effigie, sur l'image, en grec « icône », qui donnera d'ailleurs le mot « icône ». Et il introduit un parallèle, si sur la pièce il y a l'image de César, que l'on rende à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu, mais cela fait une allusion à l'image de Dieu, du coup, où est l'image de Dieu? L'image de Dieu est dans le cœur de l'homme, comme le dit le récit de la création. C'est à son image que Dieu créa l'homme. Il y a assurément une élégance de la part de Jésus à se sortir de ce piège. Élégance qui peut un peu nous dérouter ou nous désorienter en nous disant « je ne suis pas sûr que j'aurai les ressources pour trouver une solution aussi élégante si moi aussi j'étais mis à l'épreuve, si on me tendait un tel piège ». Pourtant, il y a bien une conduite que nous pouvons tirer de cet épisode. Remarquons que Jésus ne se prive pas de dénoncer l'hypocrisie et le piège qu'on veut lui tendre. Il le dit explicitement, « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège ? Il fait un acte de vérité en dévoilant le secret du cœur, en dévoilant la malice qui habitait leur cœur. Cependant, Jésus ne refuse pas la mise à l'épreuve, il ne se défausse pas face à cette mise à l'épreuve. C'est un point intéressant à remarquer, car lorsque nous sommes mis à l'épreuve, lorsqu'on nous tend un piège, on a envie de se dire « mais on me fait perdre du temps, c'est une malice, une attaque injuste qui se fait contre moi ». On pourrait avoir surtout envie de se plaindre, être désolé du temps et de l'énergie qu'on va devoir y passer, alors même qu'on aurait envie de construire des choses plus nécessaires, plus brillantes, ou de suivre le plan que l'on avait. Jésus ne se défausse pas. Pourquoi ? Parce qu'il va transformer l'épreuve en occasion de croissance de la foi. Souvenons-nous, quel est le mot, on pourrait dire, de la foi ? Le mot de la foi, celui qu'on dit à la fin de nos prières, « Amen ». Ce mot est un mot hébreu qui fait référence à une racine de la stabilité, de ce qui est stable, de ce qui tient debout. C'est cette racine, par exemple, qui désigne les montants qui tiennent les portes du temple. Ça tient debout. Et donc on dit « Amen » à quelque chose qui tient debout. On dit « Amen » à quelque chose qui ne s'effondre pas en un souffle. On dit « Amen » à quelque chose qui est capable de résister. Jésus accepte l'épreuve pour montrer que ce qu'il enseigne résiste, tient debout, tient le coup, ne s'effondre pas comme un château de cartes. Vivre l'épreuve, accepter l'épreuve, c'est aussi l'occasion finalement d'être affermi, d'être aguerri. Le sportif vit l'épreuve de l'entraînement justement pour être suffisamment aguerri au moment de la compétition. Si Jésus accepte d'être mis à l'épreuve, c'est qu'il va transformer cet événement. Au départ, il désigne quelque chose de mauvais. Le mettre à l'épreuve, c'est le même mot, la même racine qui donne le tentateur, ho peirazon en grec. Mais voilà que Jésus va en faire un acte de l'histoire du salut. En effet, en évoquant la question de l'image, quelle est l'image sur la pièce, Jésus induit aussi la réflexion, mais où est l'image de Dieu, puisque on dit qu'il faut rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu, et cette image, elle est en l'homme. Et donc, l'homme a la capacité, par son comportement, de rendre ce qu'il fait à Dieu, de faire de l'action qu'il accomplit un hommage rendu au Seigneur. Et c'est quelque chose de très précieux pour nous. Parce que, en conséquence, lorsque nous sommes dans l'épreuve, au lieu de nous désoler, nous pouvons nous dire que cet acte à l'origine malin, cet acte à l'origine agressif, hostile, nous pouvons le transformer en une occasion de glorifier le Seigneur, en un acte de salut. Seigneur, c'est avec toi, c'est pour toi, c'est pour le salut du monde en union avec Jésus que j'affronte ce temps. Parce que l'image de Dieu est en nous, nous avons la possibilité, en offrant l'action que nous avons à vivre, en offrant l'épreuve que nous avons à vivre, en l'associant à l'œuvre de salut du Christ, en l'associant à la croix du Christ, nous avons l'occasion d'en faire un hommage rendu à Dieu. C'est quelque chose de précieux parce que alors, au lieu d'avoir l'impression que on nous fait perdre notre temps et notre énergie alors qu'on pourrait faire des choses plus importantes, si nous devenons participants de l'œuvre du salut en offrant justement cette épreuve dans la croix du Christ, alors nous allons porter un fruit. Alors nous allons porter un fruit de salut pour le monde. Notre temps passé, notre énergie dépensée ne le sont plus en vain. Peut-être même, dans ces circonstances, aurons-nous l'occasion d'éprouver ce que Jésus annonçait plus haut dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 10, au verset 19, je cite, « Lorsqu'on vous livrera, ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou que dire, ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Peut-être aurons-nous la même inspiration, la même qualité d'inspiration que Jésus en prenant l'image de la pièce. Peut-être l'Esprit Saint nous inspirera-t-il une solution aussi élégante. Mais quand bien même nous n'aurions pas cette solution élégante, l'Esprit Saint consacrera ce sacrifice, hein, de cet événement. Sacrifice, ça veut dire à l'origine faire sacré. La consécration de cet événement dans l'histoire du salut lui donnera de porter un fruit. Dans la communion des saints, ce sera peut-être un fruit de courage, un fruit de persévérance, un fruit d'amour de la vérité, peut-être pour quelqu'un d'autre, peut-être pour un autre temps que le nôtre, mais il y aura un fruit si nous associons notre combat au combat du Christ. Au terme de notre enseignement, retenons peut-être tout particulièrement les éléments suivants. Comme disciples du Christ, nous serons nous aussi mis à l'épreuve, et parfois avec la même malice à l'image de celle du tentateur. Comme Jésus, nous pouvons faire un acte de vérité pour dévoiler cette malice. Mais parce que Jésus rappelle que en l'homme il y a cette image de Dieu, les actes de l'homme, même dans l'épreuve, peuvent être rendus à Dieu, peuvent devenir un hommage rendu à Dieu. Nous pouvons faire de cette épreuve qui nous tombe dessus un sacrifice pour honorer le Seigneur et participer à son combat. Ainsi, au lieu de nous désoler pour ce temps et cette énergie perdue, nous savons que nous œuvrons à la victoire du Christ, que nous participons à la victoire du Christ pour le salut du monde. Le Seigneur lui-même donnera une fécondité à notre offrande dans la communion des saints, une force de salut, une force de persévérance, une force de vérité. Le moment de l'épreuve qui nous semblait si étranger à l'histoire du salut, nous pouvons, en l'associant au combat du Christ, en faire un acte de salut. Je vous souhaite de bons échanges.